Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode de Leçon où je suis avec Anthony. J'ai passé un super moment avec Anthony parce qu'il m'a posé une question que j'ai trouvée vraiment très chouette, assez philosophique. C'est une question que beaucoup d'entre vous, je suis sûre, se posent, que je me suis posée tout le temps, que j'ai d'ailleurs, comme je dis dans le podcast, posée à plein de mes invités. La question d'Anthony est la suivante. Comment trouver la limite entre persévérance et obstination? Quand on lance sa boîte, c'est dur, c'est long. Comment savoir s'il faut continuer en fait à s'acharner ou si justement c'est de l'acharnement et qu'en fait c'est juste pas la bonne idée, c'est pas la bonne association, c'est pas le bon produit. J'ai trouvé que c'était une question intéressante parce que c'est une question qui parle de temps. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui voient l'entrepreneuriat comme un jeu de temps assez court, finalement, avec des objectifs de revente d'entreprise. Et ça peut arriver, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et donc, j'ai partagé mon point de vue à ce sujet avec Anthony. Parce que, comme vous pourrez le constater, moi, ce que j'aime, c'est le temps long. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Anthony.
Salut Pauline.
Enchantée d'être avec toi. J'espère que tu vas bien.
Également, je vais très bien, je te remercie.
Bon, est-ce que Anthony, tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît, et puis comme le veut la coutume de cette leçon, et bien me dire qu'est-ce qui t'amène avec nous aujourd'hui?
Donc moi je m'appelle Anthony, donc j'ai 35 ans et donc je suis le fondateur de Crack. Donc moi pour la petite histoire, j'ai démarré classiquement ma carrière professionnelle sortie d'études et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que cadre commercial dans le secteur du négoce dans le bâtiment. Mmh. Et puis à la suite de cela, après une dizaine d'années de carrière, j'ai décidé de fonder Crack donc en juin 2020. Donc moi j'avais cette envie d'entreprendre depuis de nombreuses années, mais bon j'étais pris dans l'engrenage de la construction de ma carrière et je me trouvais sans cesse des excuses qui était souvent lié à l'argent d'ailleurs, pour ne pas franchir le pas.
Ah, c'est pas facile, hein.
Ouais, voilà, c'est de sortir un peu de sa zone de confort, c'est pas évident, mais j'avais cette envie d'entreprendre qui m'animait depuis toujours. Et de manière très ironique, en plein Covid, j'ai eu le nez creux et je me suis dit que c'était la bonne période pour se lancer. Mm. Et donc au premier confinement, à l'été 2020, là, j'ai décidé de lancer Crack. Donc Crack, c'est quoi? C'est une marque de bras zéro, 100% made in.
Ah, super.
Donc voilà, je précise pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas, le bras zéro, c'est une sorte de cheminée extérieure autour de laquelle on va se retrouver pour un moment chaleureux. Donc nous, les bras zéro Crack, ils sont assez tournés sur le côté cuisson au feu de bois, d'accord? On vient bousculer un peu les codes du bon vieux barbecue où on avait tonton Robert qui était isolé au fond du jardin et qui nous criait « tu veux le steak, tu le veux plutôt bien cuit, saignant, etc. » Donc sur les bras zéro, on a vraiment davantage cette notion de partage, ok? On est sur un vrai produit convivial autour duquel on a envie de se réunir. Mmh. Et donc nous, on a pris le parti de faire un produit 100% made in France. Avec un design qui est propre à notre marque, donc on sort un peu des codes classiques du bras zéro qu'on peut retrouver rond qui représente à peu près 80% du marché. Mmh. Et on s'est donné une mission toute simple chez Crack, c'est celle de rassembler les gens pour un véritable moment de connexion et de convivialité. Mmh. Alors tu me diras, la mission elle est très simple, on réinvente pas la roue,
mais j'ai envie de te dire, c'est less is more souvent en termes de mission.
Exactement, voilà, mais bon, elle est simple, mais elle est noble et elle a beaucoup de sens pour nous, notamment dans ce moment où on divise beaucoup les gens et où on passe énormément de temps derrière nos écrans. On avait vraiment envie de porter cette valeur et cette mission autour d'un objet design sympa et puis vraiment chaleureux, quoi.
Bon, alors je te fais un petit aparté, je suis quand même obligée de te dire que mon mari est un fou taré de bras zéro. Donc là, tu me parles, je vais aller regarder Crack tout de suite parce qu'il me pourrit la vie depuis des mois pour qu'on ait un bras zéro. Donc je vais aller enquêter à ce sujet. Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui, Anthony ?
Alors, avec tout ce qu'implique la création d'une entreprise, la création d'une marque, la création d'une communauté, on parle souvent quand on écoute, quand on lit des bouquins, quand on parle autour de nous, quand on écoute des podcasts, on parle souvent pour l'entrepreneur de persévérance et d'abnégation dans la vie d'un entrepreneur. Et donc moi j'ai souvent cette question qui me revient et je pense que beaucoup d'entrepreneurs se la posent aussi, c'est où dois-je trouver ma limite entre la persévérance et l'obstination lorsqu'on lance un business. Donc pourquoi j'ai cette question au quotidien,
ouais.
Que aujourd'hui je m'aperçois que le marché du bras zéro est là, ok, le fameux product market fit, il est plus approuvé, il y a des leaders aujourd'hui qui ont déblayé le chemin, donc il y a un vrai marché, il y a des produits onéreux, des produits moins onéreux, voilà, il y en a pour toutes les bourses. Nous on a décidé de se démarquer avec un produit un peu différenciant par le design, ce que je disais un peu plus tôt, et par une conception 100% made in France. On se situe dans un marché avec un prix qui est cohérent par rapport à ce qui se fait et par rapport à nos concurrents. Quand nos clients aujourd'hui découvrent nos bras zéro, les touches passent un moment autour, ils sont réellement conquis. Donc aujourd'hui, on est plus sur la phase de est-ce que le produit convient à notre clientèle. On a la preuve que oui, parce qu'on a pas fait. Alors mes retours, ce sont vraiment des retours concrets. Je j'ai pas une réflexion basée sur des chiffres, sur des études de marché, etc. C'est vraiment des produits entre les mains de prospects ou de clients. Mais cependant, aujourd'hui, j'ai encore du mal à générer une vraie effervescence digne de ce nom autour de la marque, autour des produits, qui me permettent un essor de la marque et un développement serein de l'entreprise. Parce que voilà, c'est là où je me pose souvent la question, est-ce qu'il faut que je persévère dans mon idée, même si je suis convaincu, mais on est souvent un peu tronqué quand on est entrepreneur parce qu'on est persuadé que son produit c'est le meilleur. Et voilà, donc des fois d'avoir des feedbacks un peu différents, c'est toujours très constructif. Mais est-ce que je dois persévérer dans cette idée-là, mais de manière aussi à ne pas trop m'obstiner et à aller mettre des coups d'épée dans l'eau et que ça ne mène à pas grand-chose finalement.
Écoute, mon cher Anthony, c'est une question extrêmement difficile, mais extrêmement intéressante, que tout entrepreneur, je crois, s'est posée. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à plein d'invités de mon podcast et à laquelle j'ai moi-même beaucoup réfléchi. Et alors, je vais te faire plusieurs réponses, si ça te va, ou en tout cas discuter avec toi sur plusieurs sujets. Déjà, ce que je peux te dire, c'est un truc un peu dur que je vais te dire, je te préviens, mais il faut pas que tu le prennes mal.
Non, mais c'est constructif.
C'est que tu parles en fait d'obstination. Mais là, aujourd'hui, si je me trompe pas, ton entreprise existe depuis à peu près 2 ans.
Exactement.
2 ans, ça veut dire que dans le monde de l'entreprise, tu es même pas encore un bébé, je pense que tu es un nourrisson. Moi, au niveau de Gémio, ça fait 11 ans et je suis globalement un enfant à ce stade. Et quand ma boîte aura 40 ans, là, je serai probablement une boîte adulte. Donc, je blague un peu avec cette métaphore, mais je pense que vraiment le message fondamental, c'est quand tu crées une marque, ce qui est ton cas avec Crack, avec un produit, il faut que tu sortes complètement de ce que tu entends dans les médias avec le mec qui a créé une boîte tech qui, en 3 ans, s'est vendu 1 milliard et qui a rassemblé des millions et des millions d'utilisateurs, sur du vent en général d'ailleurs, parce que en fait, tu vends un produit grand public, en plus B2C, à des gens qui mettent du temps à se décider, qui mettent du temps à réaliser qu'ils ont des besoins. Et par ailleurs, en fait, qui vont mettre du temps à découvrir ton produit, parce qu'en fait, avant de toucher tout le monde, il va falloir que tu apprennes, que tu fasses des erreurs et que tu fasses énormément de diffusion. Donc, quand on crée une marque, sincèrement, il y a une réalité, c'est que ça prend énormément de temps. Et du coup, la question, c'est pas est-ce que tu t'obstines, la question, c'est est-ce que tu as envie de t'obstiner ? Parce que je peux te dire que si tu as vraiment envie que ça marche, t'es parti pour 20 ans. Je préfère te le dire. minimum.
Oui, c'est vrai que je suis bien évidemment porté par mon projet, porté par l'entreprise et bien évidemment que j'ai envie que ça fonctionne et que c'est le projet d'une vie cette entreprise pour moi et donc voilà je me vois pas arrêter à la première embûche, sinon je me serais arrêté depuis un moment.
Ça c'est une super nouvelle parce que c'est pas le cas de tout le monde, tu sais, il y a plein de gens qui lancent des boîtes et en fait leur principal objectif, c'est de la revendre. Et je blâme pas, tu vois, il n'y a pas de jugement, c'est pas grave, chacun fait comme il veut, mais c'est comme ça. Ils veulent créer une boîte, avoir une aventure pendant 3 ans, 5 ans, etc., et puis la vendre. Déjà, en général, on met beaucoup plus de temps à vendre que, surtout quand on veut bien vendre, que ce qu'on aimerait. En général, c'est plutôt entre 8 et 10 ans. Mais par ailleurs, moi, je suis assez convaincue que si tu crées, je te dis, une marque, en fait, il faut que tu utilises le temps comme ton allié. Et que le temps justement long, bah ça devienne en fait ton moyen si tu veux te différencier, parce que tu sais que c'est pas pourtant que tu vas être flemmard, c'est pas pourtant que tu vas pas essayer de te renouveler, et c'est en ça qu'il faut faire la distinction effectivement entre persévérance et obstination. L'obstination pour moi c'est quand on fait toujours la même chose, quand on n'essaye pas de se renouveler. La persévérance c'est quand on cherche par un millier d'angles différents de faire émerger sa marche, mais avec la patience de se dire que ça va pas marcher tout de suite parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et ça paraît très basique ce que je te dis, j'en ai conscience, mais je t'assure moi j'ai mis vachement de temps à le réaliser. Et moi-même, quand j'ai créé Gémio avec mon mari, pourtant, tu vois, c'était une marque qu'on a créée parce que bac de fiançailles, qu'on a acheté, on était déçus par l'expérience, etc. Donc, c'était quand même très personnel, tu vois. Donc, j'aurais pu me dire, c'est un truc qui va me durer toute la vie. Eh ben, j'avais tellement entendu le discours des start-upers qui créent une boîte, la revendent au bout de 5 ans, que j'avais même pas envisagé que cette entreprise, que cette marque, ça allait être toute ma vie. Et c'est le jour où j'ai compris qu'en fait, je voulais pas vendre, qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est créer une marque dans le temps et qui va mettre du temps à se développer, même si, tu vois, on a plutôt des croissances qui sont assez fortes, que, en fait, les choses ont commencé à vraiment marcher. Quand j'ai arrêté, d'une certaine manière, d'être impatiente et quand j'ai commencé à faire les choses, pas uniquement parce que j'avais, tu vois, peur que ça marche pas ou quoi, mais parce que je les faisais avec vraiment une intention très forte d'une inscription dans le temps. Et moi, ça m'a mis des années et j'espère que toi, ça viendra plus vite, en fait, que c'était ce déclic. Mais ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Donc, se dire qu'en fait, le temps est ton allié. Il est en ta faveur. Mais par contre, il va falloir que tu sois patient parce que je te dis, je connais aucune marque qui s'est développée en 2 ans. Mais sincèrement, c'est rien, en fait, 2 ans. C'est terrible à dire, hein, parce que je sais que toi, t'as souffert pendant 2 ans, que t'as bossé comme un chien, que tu te payes sans doute pas beaucoup. Mais malheureusement, en fait, on sous-estime vraiment le temps que ça prend. Et par contre, il se passe un truc assez étonnant, c'est que, au bout d'un moment, en général, je dirais que ça prend 7 ans, 8 ans. C'est ce que j'ai pu observer autour de moi, ce que j'ai observé avec Gémio. Bah, en fait, tout d'un coup, la machine commence à tourner toute seule. Et tu vois, ça prend quand même, en général, 6-7 ans hein, sur des marques B2C. Et là, elle se met en fait à générer de l'argent, elle se met à créer du désir, elle se met en fait à recevoir des appels entrants. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, t'es plus presque en réaction si tu étais plus obligé d'aller chercher les ventes, les clients, les investisseurs à la force du poignet. Mais ça, en fait, t'es obligé de mettre une dose d'énergie, de motivation de toi qui est, mais franchement, complètement indécente, honnêtement. Et du coup, qui est très, très importante pendant des années. Donc ça, déjà, c'est peut-être le premier truc quand même que je voulais te dire, que tu retournes un peu la question. Parce que je t'avoue que quand tu me dis est-ce que c'est de l'obstination et qu'en fait, moi, je te dis ça fait que 2 ans, ben en fait, c'est ça, quoi. C'est que ça fait que 2 ans. C'est oui, rien, 2 ans.
C'est vrai. Et en fait, ce qui me fait tenir, c'est vraiment les premiers clients qui passent d'agréables moments autour de nos produits. Donc je me dis je suis dans le vrai, dans ce que dans
c'est ça, parce que c'est ça, c'était le corollaire que j'allais te dire, parce que à un moment donné il faut quand même pas être débile, quoi. Et donc la folie, c'est de se dire non j'ai raison envers et contre tout. Si tu me dis que tes clients apprécient ton produit, si tu me dis que c'est une sensation, mais tu vois, il faut être honnête avec soi-même et s'écouter. Si tu me dis que toi, t'y crois fondamentalement et que t'y crois pas juste parce que ça t'éclate de dire que t'es entrepreneur, parce que t'aimes toi-même, tu vois, les bras zéro. Mais non, fondamentalement, tu crois qu'il y a un marché. T'as observé des clients, tu vois leurs réactions. Bah, ça, il y a forcément une part de vérité. Si tu vois cette vérité, qu'elle est sincère, j'ai envie de te dire, continue. Par contre, effectivement, il va falloir que tu testes 150 000 choses différentes, parce qu'en fait, ça va te permettre de faire tes erreurs, de te rendre compte qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qui ne fonctionne pas pour moi, tu vois. Et tout ça, malheureusement, ça prend du temps. Et surtout, je te le dis, je m'en rends compte moi-même, et tous les jours, ça continue à m'étonner, alors que ça fait déjà 11 ans que je fais ça, et que je considère que je suis qu'un bébé encore, moi aussi, au niveau de ma marque. Quand je vois des marques comme Cartier et tout, ça fait 150 ans qu'ils sont là. En fait, il y a tellement d'ajustements possibles à des niveaux de détails. On dit souvent retail is detail. La création de marque, c'est du détail parce que entre un discours sur un prix, entre la manière, je sais pas, je suis sur ton site là, la manière dont ton logo est fait, la vidéo, si tu veux, qui est sur ta homepage actuellement, ta baseline, la chaleur qui réunit. En fait, tous ces éléments, tu t'en rends pas compte, mais peuvent avoir un impact d'une manière ou d'une autre sur tes ventes. Et en fait, il n'y a pas une recette, mais c'est la somme de ces millions de petites décisions qui, si elles sont parfaitement alignées avec ta clientèle, vont faire que ça va être un succès. Et donc, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est que tu peux pas exactement savoir au début, mais tu es obligé de tester plein de choses. Si tu es sincère et que toi-même, en fait, tu as une conviction forte produit, bah, ça t'aidera à être plus aligné, tu vois, dans tout ce que tu fais. Mais malheureusement, en fait, tous ces ajustements prennent énormément de temps.
Oui, bien sûr. Et puis ce que tu l'as dit tout à l'heure, le fait de créer une entreprise dans le hardware, quoi, où on a vraiment une proposition un peu comme toi avec Gemio, on est sur du un produit concret et pas sur un produit de la tech où les entreprises grandissent moins vite, je dirais. Et c'est vrai que la réflexion aujourd'hui, elle est très orientée. Enfin, elle a été pendant ces deux premières années de lancement très orientée autour du produit. Savoir si le produit convenait bien à nous, à l'utilisation, à notre cible clientèle, etc. Est-ce que tout collait bien? Et après, tu parlais de différents éléments, peut-être un peu plus marketing sur une home page d'un site web, sur des slogans, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça, tu l'as pas en retour formel de ta clientèle. Tu n'as pas un client qui va t'appeler, qui va te dire non, mais j'aime pas votre slogan, donc du coup, il n'achète pas.
C'est clair.
Et du coup, c'est compliqué de se remettre en question sur ces éléments-là, hormis peut-être de faire appel à des cabinets.
Alors, surtout pas, ouais, mon cher Tony, surtout pas, fais-le toi-même. Parce que la personne qui doit le mieux comprendre ton client, c'est toi. Et comment tu vas faire pour le comprendre? Eh ben, tu vas l'appeler. Tu vas, si tu as des clients, et mieux que des clients et des personnes qui devraient être clients. Des personnes qui, par exemple, dans ton entourage, sont tes amis, ta famille, qui pour une, tu vois, a priori, ils sont complètement dans ton cœur de cible et pour autant, aujourd'hui, ils n'ont pas encore leur crack chez eux. Pourquoi? Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu passes des heures à analyser tes clients, à discuter avec eux, à leur montrer ton site, à leur montrer tes produits, effectivement. Mais en fait, quand moi, je parle de produits, je le dis au sens large, le produit d'une marque, en fait, bah, c'est sa marque. Donc, c'est-à-dire, c'est tout autant le logo, la chaleur qui réunit ton slogan, que la manière dont vous parlez de vous sur votre site, vos engagements, etc. Et tout ça, en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est le travail d'une vie. C'est terrible à dire, mais moi, j'ai observé à maintes reprises chez Gemio que quand il y a ne serait-ce qu'un élément qui ne sonne pas juste, et ben en fait, les clients le ressentent et je te dirais pas qu'ils achètent pas à cause de ça, mais il y a une gêne qui se fait. Et donc, t'as intérêt à passer énormément de temps sur ces sujets, en fait, de vraiment fondamentalement comprendre tes clients et comme ça, tu sauras aussi mieux ben, quels sont les arguments qui font bouche pour eux, quelles sont les couleurs qui leur plaisent, où aller les trouver aussi, ça t'aidera fondamentalement. Et donc, c'est ça qui prend du temps, c'est ça la création d'une marque, si tu veux. Et c'est pour ça que je te dis que malheureusement, en 2 ans, c'est tout à fait normal que t'en sois qu'au début. Parce que franchement, la tâche, je veux pas te faire peur en disant ça, mais elle est infinie, franchement.
Non, mais je me doute que là, le chemin est long, c'est certain. Mais bon, déjà, la première personne que j'interviewerai, c'est peut-être pour le retour, ça sera peut-être ton mari, du coup.
Bah, alors, tu vois, justement, j'allais te dire un autre point aussi pour quand même continuer à aller dans le sens de cette idée de patience. Et quand je dis patience, j'aime pas toujours le mot parce que patience, c'est souvent un peu... Il y a une connotation passive. Alors que moi, je dis, il faut mettre tous les efforts qu'on peut pour réussir, mais il faut accepter le fait, être dans l'acceptation du fait que ça prend du temps. Tu vois, pour moi, c'est ça, la patience de l'entrepreneur. C'est pas juste, je me croise les bras et j'attends que ça passe, quoi. C'est pas
bien
ça.
Sûr.
Et ben, en l'occurrence, mon mari, honnêtement, je te le dis, retour client, ça fait 2 ans qu'il rêve d'avoir un bras zéro. Pourquoi est-ce qu'il en a pas un? Je sais pas bien, on en a parlé, je lui ai dit pourquoi pas, occupe-t'en, je pense qu'il est, tu vois, il a jamais vraiment pris le temps, hein, yeah. Premièrement. Mais peut-être que si, typiquement, un jour, il écoutait ce podcast ou il tombait sur ton site, ben, il en achèterait un ou en tout cas, il serait intéressé. C'est possible. Mais du coup, en fait, j'allais dans cette idée de temps long pour te dire que imagine quand même le temps qu'il faut pour un client B2C entre le moment où il commence à imaginer qu'il va un jour avoir un bras zéro et le moment où il l'achète. Et le nombre de touchpoints qu'il doit avoir avant de se dire, ah non, mais quand même, en fait, c'est exactement ce bras zéro qu'il me faut chez moi. C'est colossal. Et donc, une fois de plus, je te fais peur et c'est un peu déprimant, mais en même temps, c'est ça qui est génial parce que c'est hyper créatif et ça veut dire que t'as le monde devant toi. C'est qu'en fait, honnêtement, le monde entier pourrait acheter un bras zéro en réalité. Il y a probablement pas de client type. Mais par contre, il va falloir que t'ailles les qualifier et que t'ailles essayer de les chercher à la force du poignet, un par un, en allant probablement avec beaucoup de répétition, à chaque fois, leur mettre ton produit sous le nez avec les bons arguments, etc. Et donc ça, une fois de plus, ça prend beaucoup de temps.
Non, c'est certain, et le côté, obstination, en fait, si tu veux, moi, je pourrais te parler de cette entreprise portée tant qu'il faudra, mais en fait c'est dans la vie d'une entreprise, et puis tu connais bien le sujet.
Il faut que tu aies suffisamment de sous pour pouvoir quand même survivre, quoi.
Exactement, il faut qu'il y ait des ressources nécessaires pour porter ton obstination, en fait.
Tout à fait.
C'est là où aussi, au bout de 2 ans, on commence un peu, où les éléments financiers se tendent un peu, où les premières ressources, voilà, commencent un peu à se tarir, et tu dois, tout en continuant d'écouter tes clients, apporter des pivots à ta structure, de manière à recalibrer certaines choses. Et ben, tout ça coûte de l'argent, c'est du marketing, beaucoup de marketing, tu l'as dit, en B2C, on a besoin d'aller percuter l'esprit de nos clients à plusieurs reprises avant que l'acte d'achat se fasse. Et donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le côté aussi ressources financières qui fait que la question est d'autant plus importante dans la philosophie, quoi.
Ouais, évidemment, j'ai pas de solution, parce que si je pouvais te faire gagner plein d'argent tout de suite, je le ferais, mais je connais malheureusement aucune boîte qui arrive, ou sinon il faut un énorme coup de bol, et souvent d'ailleurs ça se passe pas très bien derrière. Petite anecdote, il y a beaucoup d'entreprises qui ont connu pendant le Covid, notamment des entreprises dans le digital, une croissance colossale, qui ont d'ailleurs beaucoup recruté et qui maintenant se prennent des revers de bâton très importants, au point où il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui mettent la clé sous la porte parce que ils ont recruté, dépensé de manière un petit peu trop importante. Et donc, la réalité, si tu veux, les rattrape. Donc, loin de moi l'idée, si tu veux, d'être peu consciente des enjeux financiers. Mais moi, un jour, un entrepreneur que j'admire énormément m'a dit, écoute, si jamais, en fait, pour l'instant, ta taille, c'est d'être un radeau, eh ben, il va falloir que tu sois un radeau. Pour l'instant, t'es pas un paquebot. Et peut-être qu'en fait, il faut que vous soyez plus un radeau. Je connais pas tes chiffres, donc peut-être que je te dis des bêtises. Mais peut-être qu'en fait, il faut tailler dans le gras. Peut-être qu'il faut faire moins de dépenses marketing et cibler uniquement sur ce qui marche. Même que ce soit pas des dépenses marketing, mais que ce soit uniquement commercial. T'étais commercial dans une ancienne vie. Donc, voilà, tu peux, en fait, peut-être jouer plus ce rôle-là. Et en fait, ne pas avoir honte, si tu veux, parfois d'un retour en arrière, qui en fait est nécessaire et qui est probablement reculé pour mieux sauter. Ça peut arriver. Peut-être aussi que, et je te le souhaite pas évidemment, l'entreprise fermera, mais même ça, il faudra se poser la question, se dire, ben, est-ce que j'ai envie de rempiler? Peut-être que je fais une pause, je prends 6 mois, 1 an, tu vois, je machin. Mais peut-être qu'en fait, on l'a pas fait de la bonne manière pour telle et telle raison, et on a envie à nouveau de s'y mettre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que, une fois de plus, si tu crois fondamentalement au produit, c'est ça la question qu'ils pensent, si tu as observé que des clients apprécient ton produit, je sais pas quel est le chemin qui va te mener au fait que Crack va devenir une entreprise rentable et appréciée de ses clients et qui vend en nombre. Mais il y en a un. Il y en a forcément un. Et ton rôle d'entrepreneur, c'est de le trouver.
Ouais, c'est une mission ardue.
Tout à fait. Et malheureusement, il n'y a pas de recette, c'est ça. J'aimerais bien te la donner et j'aimerais bien te dire, mais en fait, les gens changent, les produits sont différents, les marchés sont différents, les périodes sont différentes. Ce qui marche pour toi demain ne marchera pas pour toi après-demain. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu essayes d'écouter. Moi, je suis assez instinctive dans ma manière de gérer mon entreprise. Et honnêtement, c'est en général ça qui fonctionne le mieux. Toutes les fois où on a essayé d'être trop intelligent d'une certaine manière, bah, ça marchait moins bien. Reviens aux bases, écoute tes clients, essaye de comprendre ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Essaye juste de faire, et si là actuellement vous avez des enjeux financiers, ben tout ce que vous pouvez ne pas garder, vous ne le gardez pas. Tout ce qu'au contraire peut générer du chiffre d'affaires le plus rapidement possible, et ben il faut investir massivement dessus, de ton temps. Je te dis pas d'investir de l'argent, mais de ton temps. Ton temps, c'est de l'argent, et donc il faut que tu le mettes dessus. Et donc si déjà t'arrives à faire ça, ça peut peut-être vous sortir la tête de l'eau. Une fois que t'as sorti la tête de l'eau, là tu pourras commencer à reconstruire des bases plus solides, si tu veux, pour que la marque elle se pérennise. Mais Personnellement, on est passé par des périodes difficiles avec Gémio où franchement, on n'avait plus beaucoup de sous dans le compte en banque. Et moi, j'ai toujours considéré qu'on avait une obligation en tant qu'entrepreneur de ne pas mettre la clé sous la porte, quoi. Et donc, s'il faut serrer la ceinture, littéralement vérifier chaque stylo qui est acheté, si tu veux, pour qu'il n'y ait pas trop de coûts administratifs, que personne ne fasse de resto, que je baisse mon salaire, que pendant une période, et que en parallèle de ça, on essaye de générer un maximum de chiffre d'affaires en essayant d'aller chercher tous les low hanging fruits, comme ils disent aux États-Unis. Et ben, en fait, je considérais que c'était mon devoir avec mon mari de faire ça. C'est ce qu'on a fait. Ça a été une période honnêtement pas facile qui a duré 2 ans, où franchement, j'ai cru qu'on n'allait pas réussir à s'en sortir. Et puis finalement, tu vois, 2 ans d'obstination peut-être font que tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, il se passe quelque chose et tous ces efforts commencent à payer. Et en fait, l'accumulation du chiffre d'affaires en plus que tu as commencé à générer, les coûts en moins que tu as font que tu sors la tête de l'eau et tu peux à nouveau commencer à embaucher et tu peux à nouveau commencer à investir en marketing, etc. Et je sais qu'il est possible que ça se reproduise, tu vois, ce genre de période, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même si aujourd'hui, on en est bien loin. Donc je pense que c'est cette capacité, si tu veux, à rebondir et à se remettre en cause aussi qui est à pas rester sur ses acquis, tu vois. Parce que c'est pas parce que pendant 2 ans, peut-être ça a marché, ou pendant 2 ans, vous êtes dit non, mais on est à l'abri du besoin, que maintenant, en fait, quand ça arrive, il faut pas changer son fusil d'épaule, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner.
Non, bien sûr. C'est pas dans ma philosophie. Je suis pas quelqu'un qui reste statique face aux problèmes, etc. Donc, je suis toujours dans le côté très proactif. Mais bon voilà, comme tu le dis, des fois quand t'as un peu pas mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, parce que mon quotidien est pas ça, et bien heureusement le quotidien de nombreux entrepreneurs n'est pas celui-ci.
Non, mais bon, on s'en tape quand même beaucoup des mauvaises nouvelles, ouais, on peut le dire.
Il y a plus de mauvaises que de.
Et toi comme moi, hein, tu sais.
Plus de mauvaises que de bonnes, mais c'est pour ça qu'il y a des fois il y a quelques signaux qui me font me dire lorsque j'ai un genou à terre, qui me font me dire non, mais là il y a ça qui va se dessiner, il y a une interview, il y a un salon, il y a un client qui sort de je ne sais pas où qui prend contact avec nous et a envie de s'équiper avec un bras zéro. Donc il y a quelques signaux qui font que. Qui font justement me persévérer dans cette mission, donc de porter l'entreprise. Mais bon voilà, et je sais que l'obstination, elle va, j'en suis encore pas là, mais l'obstination va devoir, peut-être s'arrêter le jour où effectivement, en termes de ressources financières, il y aura plus de solutions.
Donc on en est. À toi de trouver des solutions pour que ça ne se produise pas. Un exemple que j'aime bien, c'est celui de Frédéric Mazzella, tu sais, qui est le cofondateur de Blablacar. Alors on est sur typiquement une boîte qui n'est pas une boîte produit comme les nôtres, mais néanmoins, si tu veux, lui c'était une question de timing, je pense. Il n'avait pas trouvé son business model. Il a raconté plusieurs fois, notamment dans mon podcast que j'ai invité 2 fois, qu'il avait mis 7 ans. Avant de trouver son produit, son product market fit et comment est-ce qu'il a commencé à marcher. Mais pendant 7 ans, il était vraiment, tu sais, comme quand tu nages et que t'es en train de couler et que t'as l'eau qui est juste en dessous de la lèvre, si tu veux, et que t'es en train de respirer. Il était comme ça, quoi. Pendant 7 ans, il a mangé des pâtes chez lui, quoi. Et 7 ans, c'est long, hein.
Ouais, c'est
7 ans, c'est long.
C'est très long.
Et lui, en fait.
Ton livre, tu m'as un peu spoilé, mais.
Désolé. Désolé pour ça. Bon, mais ça vaut le coup quand même de le lire. Mais tout ça pour te dire que je veux pas paraître. Enfin, ce que je peux te dire, c'est que je crois fondamentalement que ceux qui réussissent, c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Et quand on dit n'abandonne jamais, ça prend plein de formes différentes. Ça veut dire que tu peux relancer ta boîte derrière. Ça veut dire que tu peux essayer de trouver des ressources. Ça veut dire que tu peux aller chercher des clients, tu vois, des clients avec les dents. Ça veut dire que tu peux faire de ta boîte un radeau et non plus un paquebot. Enfin, il y a mille et une manières, si tu veux, de ne pas abandonner. Et en fait, c'est ça qui va faire que vous allez réussir, quoi. Vous allez finir par y arriver. Parce que c'est dur, quoi. C'est vraiment dur.
Oui, c'est un
et c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde.
Un long chemin, qui est pas évident, c'est sûr. Mais bon, je pense que pour ceux qui écoutent ton podcast, on va dire, je pense que 98% des gens qui écoutent se reconnaissent dans ça. Bon.
Mais bien sûr, parce que là aussi, tu vois, je suis contente qu'on en parle et je te remercie d'être aussi transparent. Et moi, j'essaie de l'être aussi, mais sincèrement, pas un instant, si tu veux, il faut penser que il y a des gens qui claquent entre les doigts et ça se fait tout seul. C'est faux. C'est tout simplement faux. Oui, il y a des gens qui lèvent des fonds et qui, du coup, sont sous perfusion d'argent et, du coup, peuvent, je suis désolée, pisser le fric par tous les trous et c'est pas un problème. Mais ça veut pas dire que leur entreprise est saine et fonctionne vraiment. Ça veut dire juste qu'ils sont, ils sont sous intraveineuse, ils sont comme dopés, quoi.
Bon, ouais, bah, voilà. On est plus conscience au fil de l'eau, mais c'est vrai qu'au début, alors, on est un peu perfusé sur LinkedIn, sur divers réseaux, sur ces grosses levées de fonds qui sont faites dans la tech ou autre, sur ces startups qui démarre et du coup ça, alors même si c'est en train de se tasser, que c'est en train de se revenir un petit peu à la normale, on est quand même par les différents réseaux de communication, notamment moi je trouve sur LinkedIn où on est souvent voilà perfusé avec ces idées de lever des fonds c'est facile, lever des fonds ça fait avancer, et on a cette impression que dans les entreprises qui sont lancées, rien ne peut leur arriver, quoi.
Bah écoute, je suis passée par là, j'ai levé des fonds, j'ai racheté mon fonds d'investissement, donc j'ai vu l'autre côté du miroir, et je peux te dire que tu fais grand bien si tu peux t'en passer, puisqu'en fait, lever des fonds, c'est un aveu d'échec de ne pas être capable de générer suffisamment de chiffre d'affaires, ouais. Et de créer suffisamment de traction pour tes clients, de telle sorte que tu es obligé, si tu veux, d'avoir de l'argent d'investissement externe, et donc que tu donnes quand même concrètement le contrôle de ton entreprise. Donc c'est pas non plus la panacée. Et en l'occurrence, il y a plein d'entreprises qui lèvent des fonds et qui, donc, sur le papier, si tu veux, ont des valorisations extrêmes, qui, quand tu regardes leur chiffre d'affaires, sincèrement, est très faible. Je dis pas qu'il faut pas du tout lever de fonds, ça peut être intéressant pour certains business, mais c'est un jeu qui est différent. Et honnêtement, dès lors que tu es sur un produit physique qui va nécessiter du temps, comme on l'a dit, de développement, que t'es pas sur un effet de mode, tu vois, de bah voilà, c'est la nouvelle assurance tech et comme c'est le mot clé à la mode, bah tout le monde lève des fonds là-dessus et puis on verra bien dans 2 ans ce qui se passe. En fait, je te conseille de même pas, enfin, essayer de limiter au maximum ce que tu regardes sur les levées de fonds, parce qu'en fait, ça te fait du mal et ça t'apporte rien et ça te dévie probablement, bah, de ton chemin qui est de te concentrer sur ton marché, sur tes clients, sur ton radeau. Il faut le faire vivre. Il faut qu'il flotte. T'as un devoir en tant qu'entrepreneur. Si jamais tu crois à cette entreprise, c'est de continuer à faire flotter le radeau. Parce que le radeau, un jour, ça deviendra un voilier. Ensuite, ça deviendra peut-être un yacht. Ensuite, ça deviendra peut-être un gros paquebot. Et on commence tous par être un radeau.
Tant que ça ne devient pas un sous-marin, ça va.
Mais écoute, je sais que c'est dur. Et malheureusement, je ne vais pas te faire plaisir en te disant que ça ne s'améliore pas avec le temps. Ça devient juste différent. Mais c'est aussi ça qui est génial, c'est que c'est une sacrée aventure. Et qu'on apprend beaucoup.
Très bien, Pauline. Merci beaucoup pour ton point de vue.
Merci à toi, Anthony. Et je te souhaite évidemment beaucoup de courage, parce qu'il en faut. Et bien sûr, beaucoup de succès dans cette belle aventure. Crac, et je vais quand même passer le mot à mon mari pour qu'il aille faire un tour sur ton site.
Il veut se faire interviewer, ça m'intéresse d'avoir son retour.
Bah, très bien, je lui dirai ça. En tout cas, merci à toi. À bientôt.
Merci, Pauline.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, et bien c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.